La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission, La science et nous. Les auditeurs de Radio Présence me connaissent déjà bien grâce aux chroniques astrophysiques que je donne chaque semaine depuis 2013. Ça fait déjà 9 ans. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, les mauvaises aussi d'ailleurs, et le temps était venu d'arrêter ces chroniques pour changer de format. Radio Présence m'a proposé d'animer une nouvelle émission dans laquelle j'inviterai des collègues scientifiques de toutes disciplines pour présenter leurs recherches, leur fonctionnement, leurs joies, leurs soucis, leurs curiosités, leur rapport à la société. Cette construction du savoir de l'humanité qui évolue depuis tant de siècles est particulièrement exaltante. Elle s'accélère beaucoup à notre époque et il est parfois difficile de la suivre. Il est important d'en avoir conscience pour mieux se situer dans ce monde difficile qui est le nôtre et mieux comprendre son évolution. Les scientifiques parlent au public. Ils expliquent leur démarche, leur quête de savoir, leur découverte, dans un échange amical avec les auditeurs de Radio Présence, pour une meilleure compréhension de l'évolution des connaissances qui nous concerne tous. Aujourd'hui, je reçois Michel Lebert, ancien élève de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, l'ENSAE, plus connu peut-être sous le nom de Supaéro. Son parcours de vie est passionnant. D'abord ingénieur à Airbus Defence and Space à Toulouse, anciennement Astrium, après un passage chez Thales Alenia Space, où il développait des logiciels de contrôle de trajectoire de satellites, il a beaucoup voyagé, au Chili et ailleurs. Il nous parlera de cette partie exaltante de sa carrière. Cependant, montagnard dans l'âme, il a finalement souhaité utiliser ses compétences dans un autre but, lui permettant de vivre dans un environnement plus proche de ses aspirations. Il s'est mis à concevoir des voiles de parapente, tout en continuant d'abord ses travaux à Airbus, puis il a complètement bifurqué vers les hauteurs pyrénéennes. Il nous expliquera toute la science et la technologie qui se cachent derrière un sport ludique pratiqué par beaucoup de monde, en particulier les vacanciers. Enfin, sa conception de voile porteuse le conduit à présent à calculer la forme et la structure d'autres types de voiles immensément plus grandes, destinées à aider de gros bateaux à faire des économies d'énergie fossile en utilisant la force du vent. C'est un troisième sujet absolument passionnant qui va dans le sens de la transition énergétique. Il nous faudra certainement plusieurs émissions pour traiter tous ces sujets. Michel Lebert, bonjour. Parlez-nous d'abord de vos débuts de carrière. Comment vous est venue cette première vocation spatiale? D'abord les études à Supaéro et puis ce début de carrière comme ingénieur dans le domaine de l'espace. C'était une vocation d'enfance?
Oui, effectivement, enfant, je pratiquais l'astronomie et la photographie et un petit peu le parapente avant de pouvoir choisir une école d'ingénieur. Et cette école Supaéro m'a particulièrement attiré puisque elle enseignait les métiers liés à l'aéronautique, à tout ce qui vole et puis également aux satellites d'observation de la Terre ou scientifiques. Et voilà, c'est des domaines qui m'attiraient beaucoup.
Et en quoi consistaient vos travaux à Airbus à propos des satellites? Ça consistait à gérer la mise en poste, comme on dit, des satellites au moment du lancement? Qu'est-ce que ça signifie exactement et qu'est-ce que vous faisiez exactement?
Oui, alors j'ai travaillé précisément dans un domaine qui s'appelle la mécanique spatiale. Donc c'est tout ce qui est lié à l'orbitographie des satellites. Et donc ça consistait à calculer précisément l'orbite qui permet d'amener le satellite de la position sur laquelle il est lâché par une fusée jusqu'à son orbite opérationnelle et ensuite contrôler cette orbite, c'est-à-dire lui faire les manœuvres permettant de le garder à la bonne altitude avec le bon phasage avec la Terre pour les satellites d'observation.
Et c'était quel genre de satellite? C'était pour le CNES? C'était des satellites donc d'observation de la Terre, des satellites scientifiques, des satellites... C'était pas des satellites de télécommunication si aussi?
Un peu tous les satellites. Effectivement, il y a une époque à laquelle j'ai travaillé pour Thales, et là, c'était des satellites plutôt scientifiques, donc d'études de l'atmosphère ou des océans. par la suite, un petit peu sur des satellites de télécommunication. Voilà, c'est des gros satellites de la taille d'un bus qui doivent être maintenus précisément au-dessus d'un pays. Par la suite, je me suis orienté plutôt vers des satellites d'observation, puisque c'est la photographie et toutes les applications derrière liées aux catastrophes naturelles. Voilà, tout ce qui est lié à la photographie de la Terre m'intéressait beaucoup. Et ça, c'est des satellites en orbite plus basse, avec en plus de contrôle à faire dessus, puisqu'ils frottent sur l'atmosphère, donc ils ont tendance à retomber.
Donc ce n'est pas du tout des satellites géostationnaires, ça, qui sont à 40 000 km. Là, c'était à des orbites de quelle altitude à peu près?
Alors, les satellites d'observation type SPOT, c'est autour de 800 km. Et c'est une orbite effectivement appelée polaire, enfin qui passe proche du pôle et qui est calculée pour avoir un phasage, c'est-à-dire qu'au bout de 4-5 jours typiquement, il retombe exactement sur la même trajectoire après avoir dérivé, ce qui permet en fait de pouvoir faire des images de n'importe quel point de la Terre, de reparcourir toute la Terre au bout de quelques jours.
Une fois les satellites en orbite, est-ce qu'il faut leur donner un petit coup de pouce de temps en temps? Mais ça, c'était peut-être pas votre travail. Alors, il me semble que les satellites risquent de dévier un peu et qu'il faut toujours les vérifier l'orbite, que l'orbite n'a pas changé. Est-ce que c'est vrai ou je me
Oui,
trompe?
tout à fait, tout à fait. Alors, mon travail, c'était de développer les logiciels et de faire les études en amont pour évaluer la quantité de carburant à mettre à bord des satellites pour leur durée de vie, typiquement une dizaine d'années. Ces satellites en orbite basse, il faut les remonter régulièrement puisque le frottement atmosphérique, ils ont tendance à retomber. Donc, typiquement, tous les 15 jours, il fallait faire une petite manœuvre. Donc, ça dépend de la densité atmosphérique liée elle-même à l'activité solaire.
Ça veut dire que vous aviez comme travail la mise en poste des satellites et le suivi après, ou c'est des métiers séparés ou...
Moi, mon activité, ça s'arrêtait après la mise à poste des satellites. Développer un logiciel permettant de faire à la fois la mise à poste et le maintien à poste. Mon activité allait jusqu'à faire la mise à poste et la mise en service du satellite. C'est soit un satellite vendu à un pays étranger, et là on forme les opérateurs dans le centre de contrôle du pays qui vont opérer le satellite. Soit bon, il y a d'autres satellites où Airbus pouvait être amené à faire le suivi.
Donc justement, vous avez beaucoup voyagé, en particulier en Amérique latine, au Chili, pour mettre en place des centres de contrôle de satellites. Expliquez-nous ça un petit peu.
C'est des satellites vendus à l'export, comme on dit. Donc, par exemple, effectivement, au Chili, j'ai été responsable des activités liées à la mécanique spatiale, donc tout ce qui était tourné autour du dimensionnement, du carburant à bord du satellite et des opérations de mise à poste. Donc, le client aimait bien que les opérations de mise à poste se fassent dans le centre de contrôle, donc vendu avec le satellite pour l'opérer. Même si on aurait pu faire les opérations depuis Toulouse. Voilà, ça permettait de valider le fonctionnement du centre de contrôle et puis de former en même temps les opérateurs.
Et là, c'était aussi des satellites de télécommunication, non pas de télécommunication, de comment on appelle, de vision de la Terre,
D'observation.
d'observation de la Terre. Ou c'était, qu'est-ce que c'était comme satellite pour le
Oui, là,
Chili?
c'est un petit satellite d'observation, donc permettant vraiment de faire des photographies du Chili en particulier, puisque c'était un satellite vendu au Chili, mais le satellite tournant autour de la Terre, tout point de la Terre, peut être photographié finalement.
Et il y avait un seul centre de contrôle au Chili ou il y avait aussi une collaboration avec d'autres centres de contrôle dans d'autres pays?
Alors là, non, c'est un centre de contrôle qui se trouve au Chili. Mais c'est vrai qu'il y a des projets où il peut y avoir une collaboration. C'est déjà arrivé qu'il y ait des satellites vendus à un pays et puis que finalement, il y ait un partage du temps d'utilisation du satellite avec la France.
Et vous avez travaillé en particulier pour le satellite Spot, d'après ce que j'ai compris, ou qu'est-ce que vous faisiez là à ce moment-là pour Spot?
Alors j'ai travaillé sur les projets Spot 6 et 7, effectivement. C'était dimensionner le carburant à bord du satellite pour qu'il tienne une durée de vie d'une dizaine d'années et puis participer aux opérations de mise à poste et voilà, de maintien à poste. Puis après, il y a une activité un petit peu rigolote, entre guillemets. Comme il y a beaucoup de débris en vol, enfin dans l'espace,
Ça, je trouve pas ça rigolo, si je peux me permettre, qu'il y ait beaucoup de débris dans l'espace, parce que
c'est...
c'est un vrai, vrai gros problème, ça, les débris spatiaux.
Oui. Alors quand je dis rigolo, bon, c'était un petit peu rigolo dans le sens où il faut réagir très vite. Et effectivement, voilà, on sait que dans quelques jours, ben, potentiellement des orbites vont se croiser. Alors c'est des orbites calculées avec des incertitudes. Et puis ben, parfois la veille, on se rend compte que non, les débris ne va pas passer trop près du satellite. Et puis d'autres fois, si. Et là, il faut réagir.
Donc c'est un travail absolument passionnant et en plus avec beaucoup d'importance pour l'humanité puisque des satellites d'observation de la Terre, ça permet d'avoir des répercussions journalières, je dirais même pour l'agriculture, pour beaucoup de phénomènes qui se passent sur la Terre qui sont importants à observer depuis l'espace. Donc je suppose que c'était vraiment très intéressant et vous avez pourtant changé de... Comment dire, changer de thématique et on en parlera la prochaine émission, la semaine prochaine, parce que c'est tout un sujet en soi. Donc à la semaine prochaine, au revoir.